Sylvie Laurent, bonjour.
Bonjour.
Pauvre petit blanc, c'est le titre de votre livre qui a un sous-titre, le mythe de la dépossession raciale. Alors commençons tout d'abord par ce titre. Pauvre petit blanc, pourquoi avez-vous choisi cette formulation ?
Alors j'ai choisi cette formulation assez ironique pour désigner non pas tant un individu, quelqu'un qui existerait, mais davantage pour parler de l'histoire d'un sentiment, l'histoire de quelque chose qui est ressenti, de l'ordre d'un affect, le sentiment que l'on est dépossédé de ce que l'on a, le sentiment que quelqu'un conspire à vous prendre ce qui vous définit. Et le pauvre petit blanc dans l'histoire américaine, c'est ce citoyen blanc privilégié matériellement et historiquement par rapport ne serait-ce qu'aux tribus indiennes dont les terres ont été volées ou aux esclaves noirs dont le corps a été exploité et martyrisé, qui néanmoins se sent perpétuellement dans un état de danger, dans un état de vulnérabilité. Et cette posture, ce sentiment qui a été politiquement construit depuis le XVIIe siècle aux États-Unis est encore extrêmement présent aux États-Unis, et c'est cela que je voulais capturer dans ce titre. Pauvre petit blanc, cette idée que l'on est dans une forme de victimisation anthropologique qui vous donne évidemment la légitimité et le droit de revendiquer ce qui vous revient.
Et ce sentiment de dépossession, de victimisation, c'est là-dessus qu'a fonctionné tout le discours de Donald Trump.
Oui, il a réussi plus qu'aucun autre, bien que je le montre dans le livre, il y a une longue histoire du Parti conservateur cherchant à mettre à profit ce sentiment tellement ancien qu'ont les blancs, que eh bien, finalement leur statut est menacé, cette perte de statut qui est tellement fondamentale, en particulier depuis que la crise économique et les politiques néolibérales ont fait beaucoup de dégâts aux États-Unis. Mais Trump, plus qu'aucun autre, est parvenu à expliciter et à politiser une conscience de soi comme conscience blessée. Vous savez, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les cercles conservateurs, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais aussi en France, l'idée selon laquelle les populations blanches serait d'une certaine façon mise en minorité par la présence des immigrés, des noirs, ou bien y compris des homosexuels ou des femmes. Et cette espèce de retournement de la position de marginalité, elle a été extrêmement fructueuse pour Donald Trump, qui a donné le sentiment à des gens dont une partie était en effet dans une situation de vulnérabilité économique, mais la majorité ne l'était pas. Néanmoins, il a parlé à cette peur de perte de statut qui les angoisse fondamentalement depuis plusieurs décennies.
Comment vous expliquez ce mythe de la dépossession raciale ? Vous expliquez dans votre livre que, on va dire la blancheur, ça a été longtemps, et dans l'histoire des États-Unis, mais peut-être encore, une distinction, un statut. Vous rappelez que du temps de l'esclavagisme, eh bien, la blancheur, c'est finalement ce qui distinguait les blancs pauvres des esclaves noirs, et qu'il y a quelque chose qui est resté.
Oui, bien sûr. On sait que dans toutes les sociétés esclavagistes, qu'il s'agisse des Antilles, du Brésil, ou bien sûr des États-Unis, il y a eu une racialisation de la population servile de façon extrêmement stricte, à la fois arbitraire et en même temps stricte, afin de distinguer les libres, ceux dont la peau était blanche, de ceux qui étaient forcément reconnu par la loi comme étant de la main-d'œuvre. Mais aux États-Unis, ça a été bien plus loin que cela. La question fondamentale, c'est qui est le citoyen légitime ? Et on le voit encore aujourd'hui, en 2020, avec la contestation du vote. Quel est ce démos qui a le droit de déterminer des destinées du pays ? Eh bien, aux États-Unis, historiquement, dès la Constitution de 1787, on a commencé à déterminer qu'il ne pouvait y avoir de citoyen américain que de citoyens blancs. Ce que le chercheur noir américain W.E.B. Du Bois appelait le salaire symbolique, toute une série de reconnaissances civiques étaient données exclusivement aux blancs. Si bien qu'à partir du moment où, en particulier au lendemain de la guerre civile, la citoyenneté a été accordée aux noirs, et puis ensuite progressivement aux immigrés et aux populations de couleur venues aux États-Unis, les blancs qui étaient les citoyens fondateurs se sont sentis relativement privés de ce qui leur revenait. Donc il y a quelque chose qui est très profond dans l'histoire américaine, cette idée que le blanc, l'homme blanc, d'origine anglo-saxonne, protestant, pratiquant, chrétien, est celui qui incarne l'Amérique. Et que tous les autres, bien finalement, ils doivent démontrer qu'ils le méritent. Lui, il mérite naturellement. Et donc il perçoit les gains et les progrès et la citoyenneté des autres comme une atteinte à ce qu'il lui revient à lui de droit.
Et ce que vous montrez aussi, c'est que ce sentiment de dépossession, eh bien, il s'est accompagné de l'idée que, puisque les minorités prenaient une nouvelle place dans la société, mais il s'est accompagné de l'idée que le racisme était révolu.
Plus encore, que le racisme était inversé. On assiste, je vous le disais tout à l'heure, dès la fin de la guerre civile, à ce discours, à cette rhétorique du racisme inversé ou de la discrimination inversée. C'est-à-dire, et on retrouve ça dans un certain nombre de sociétés coloniales, que les anciens maîtres, face à la liberté nouvellement acquise et aux revendications d'égalité des Noirs et des autres minorités, je ne parle pas des populations indigènes, mais il y aurait beaucoup à dire sur la privation de la dignité des Indiens, mais en tout cas pour les Blancs, à mesure que d'autres populations accédaient à la liberté de parole et à une petite partie du pouvoir, ils ont à ce moment-là mobilisé le discours du racisme inversé, de la discrimination inversée, c'était eux qui étaient les victimes. Et on trouve ça dès les années 1870 dans le sud des États-Unis, mais si vous regardez plus récemment les sondages qui ont été faits sur l'électorat de Donald Trump, eh bien une très grande majorité des électeurs de Donald Trump pensent que la discrimination contre les Blancs est aussi importante que les autres. Et si vous voulez, on est dans une telle schizophrénie dans la représentation du champ social et de ce que sont véritablement les oppressions et les rapports de force que l'on ne peut comprendre ce sentiment-là que si on revient à l'histoire, et c'est ce que je me propose de faire dans ce livre.
D'ailleurs, c'est très intéressant le positionnement des jeunes Américains vis-à-vis de leur entrée à l'université et la place qui est faite aux minorités.
C'est très surprenant le sentiment qu'ils ont qu'il est plus facile d'aller à l'université si on est une jeune femme noire, queer, que si on est un blanc. Il y a cette espèce d'idéologie longuement entretenue par les conservateurs, alors que c'est un mensonge. Mais ce qui est le plus frappant et dont je parle en effet dans le livre, c'est la façon dont les jeunes, les gens qui sont censés ne pas avoir hérité de ce poids, du préjudice et du stéréotype racial, héritent néanmoins de cette lecture complètement faussée du monde qui les entoure. Vous savez, l'écrivain James Baldwin parlait dans un texte de la fin des années 70 de cette étrange nostalgie des Blancs. Cette idée que les Blancs ont toujours l'idée qu'avant, il existait un temps révolu, un paradis perdu, où il était tellement plus confortable d'être Blanc. On est dans le mythe, dans une espèce d'idéologie ancrée dans l'identité raciale dont parlait James Baldwin et dont ne sont pas immunisés les plus jeunes des Américains aujourd'hui.
On voit désormais Joe Biden constituer une équipe particulièrement diverse avec une vice-présidente porte-flambeau de cette diversité. Comment est-ce que cette nouvelle présidence peut-elle être perçue par cette partie de la population américaine ?
Écoutez, c'est difficile à dire étant donné l'espèce de champ de bataille dans lequel nous sommes puisque les gens qui ont massivement voté pour Donald Trump sont aujourd'hui à près de 80% persuadés que l'élection de Joe Biden est illégitime, que l'élection a été truquée et que Donald Trump est le président véritablement élu. Donc la représentation qu'ils ont de Joe Biden et de Kamala Harris, c'est que évidemment ce sont des imposteurs. Néanmoins, il faudrait se garder de penser que la très grande diversité en termes d'identité sexuelle, de genre, d'identité raciale du cabinet de Joe Biden signifie véritablement que l'on est sorti d'un certain nombre d'idées reçues et de stéréotypes. Je suis assez méfiante, comme un certain nombre d'activistes aux États-Unis, vis-à-vis d'un cabinet qui certes est très haut en couleur et très divers, mais en réalité on connaît bien le tour de passe-passe néolibéral et conservateur consistant à dire aux minorités qui ont soutenu Joe Biden, eh bien voyez, vous avez beaucoup de diversité, vous avez une vitrine qui ressemble à l'Amérique et c'est tout ce que vous aurez. C'est-à-dire que les minorités aux États-Unis et les Noirs en particulier attendent bien plus qu'une vice-présidente et une série de membres de cabinet noirs. Ils veulent des politiques qui changent la vie des communautés marginalisées aux États-Unis et ça reste encore à voir parce que malheureusement tous ces nouveaux fonctionnaires et hommes d'État qui sont certainement très méritants au niveau individuel sont quand même très conservateurs. Donc il ne suffit pas d'être noir, gay ou hispanique pour porter une parole véritablement émancipatrice pour les communautés les plus fragiles aux États-Unis.
Merci Sylvie Laurent.
C'est moi qui vous remercie.